Oui, là, il est assez fort. Just within me. OK. Ça fonctionne. Bon. Bien, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. On recommence. Et aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est toujours une joie, comme je viens d'être assemblés ensemble dans le nom du Seigneur, afin de manifester la présence de Dieu ensemble, de prier, de mettre en action la prière et l'application de la parole de Dieu dans chacune de nos rencontres, où on peut pratiquer les actes que le Seigneur nous a donné de manifester et d'accomplir les uns pour les autres. Ce qui va avec notre titre de message ce matin, nos valeurs sont fondées non sur nous-mêmes et sur une philosophie quelconque ou des enseignements du monde, mais sur Christ et sur sa parole. Donc, notre fondement est le fondement de nos valeurs. Pourquoi on parle de ça ce matin? Bien, j'ai parlé la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi, qui étaient là, de spiritualité. Et les valeurs, bien, vont avec aussi la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est mettre en pratique donc les valeurs qui sont chrétiennes, qui sont de Dieu. Donc, cette semaine, et depuis un certain temps, on entend parler, justement, et nous voyons que de plus en plus, le monde cherche à abolir les valeurs qui sont chrétiennes. Et tout cela se fait graduellement dans un ordre bien défini. Et en le faisant ainsi, bien, on ne réagit pas. C'est comme lorsqu'on dirait qu'on vient de mettre un stop au plein milieu d'une rue où il n'y a pas d'intersection et qu'il n'y a rien, du jour au lendemain, là, on réagirait. On dirait, pourquoi ils ont mis un stop? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé pour que cela ça se fasse? Hein? Qu'est-ce qui a amené cette décision-là de mettre un stop au plein milieu d'une rue ou d'un boulevard ou qu'importe, où est-ce qu'il n'y a aucune intersection? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Présentement, il y a des places que c'est en travaux, un petit peu partout, je pense. Au Québec, on est c'est les cônes oranges. Mais des fois, il y a des situations, il y a des places où ce qu'on se dit, c'est quoi l'idée de mettre une lumière, la mettre pour qu'elle fasse comme un stop, qu'elle flash rouge, alors qu'il n'y a aucune voie qui fonctionne des deux côtés, puis qu'on met un autre stop à 100 mètres, même pas, de cette lumière-là, juste après. Il y a des choses, des fois, des situations parfois qu'on peut se poser la question. Mais on vient à nos valeurs. On vient à nos valeurs. Étant donné que la société a commencé graduellement, depuis les années, je dirais 80 environ, à enlever graduellement les valeurs qui sont chrétiennes, on parle de quoi? On parle de la prière. Et pourquoi s'attaquer à la prière en premier? Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit par la prière. Donc, la première étape était d'enlever cette notion que les gens ont et avaient, que la puissance de Dieu, elle est là, elle est disponible et on peut l'atteindre à travers la prière. Ensuite, on a commencé à enlever quoi? Des services graduellement qui touchent nos valeurs. Dans la société, je ne parle pas dans les églises, je parle dans la société. Et de plus en plus, on voit un manque de personnel pour aider la société dans différents aspects, que ce soit pour les services alimentaires, que ce soit pour les dons et ainsi de suite. Bien, on voit ça de plus en plus où ce que les gens ne s'impliquent plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont de la difficulté à trouver des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent donner du temps. Et pourtant, ça fait partie des valeurs qui nous étaient inculquées au Québec depuis bien des années, je dirais des centaines d'années, qu'on a vécu avec une notion où aider l'autre faisait partie intégrante de notre société et de chaque personne. Donc, on voulait s'impliquer. On voulait mettre en place et accomplir des valeurs qui étaient pour aider et toucher les autres. Ce qui m'amène à la définition, si vous voulez, de la valeur chrétienne, des valeurs qui sont chrétiennes, qui sont aussi des principes moraux et éthiques fondés sur les enseignements de Jésus, centrés sur l'amour de Dieu et du prochain, le respect, la justice et la compassion, mais aussi à la recherche de la paix et de la vérité. Ces valeurs visent à construire un monde meilleur en se manifestant par des actions de service, qui sont aussi à travers le pardon, la charité et l'humilité. Elle apporte aux croyants la foi, l'espérance, la charité, hein, l'amour, et met en justice, ou encore en justice, la prudence, la force, la tempérance, ainsi qu'à travers le fruit de l'esprit qu'on va parler tantôt, qui est la joie, la patience et la bonté. Donc, tout ce qui contribue au bien et à l'équilibre et au bonheur de chaque individu, de chaque personne, d'une ville, d'un État et jusqu'à une nation. Donc, qu'est-ce qu'on attaque aujourd'hui, ce matin? De quoi est-ce qu'on parle? De quelque chose qu'on voit de plus en plus prendre de l'ampleur. Et pourtant, c'est ce qui donne une société, ce qui fait qu'une société est en équilibre. Lorsqu'on peut mettre en pratique, oui, les valeurs chrétiennes, mais au sein de la société. On le fait dans l'Église, naturellement. On le fait entre nous, lorsque quelqu'un a besoin d'aide ou quoi que ce soit, d'un service, bien, on peut demander, et souvent, dans l'Église, on va trouver des personnes qui vont vouloir aider, qui vont vouloir donner un coup de main, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cela fait partie de nos valeurs. Les plus grandes ou nos plus grandes valeurs nous ont été données par la parole de Dieu et en particulier par Christ. Et c'est ce qui nous amène à notre texte de ce matin qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Et on va prendre les paroles du Seigneur ce matin afin de nous édifier en lui. Puisque, comme le titre du message, hein, nous amène à penser que nos valeurs sont fondées non sur nous-mêmes, mais sur Christ, sur ce que lui nous a appris et nous a donné, ce que lui-même a mis en pratique. Et Jésus nous dira, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça commence bien, hein? Mais ici, Jésus parle de la loi de l'Ancien Testament. Mais maintenant, Jésus continue au verset 44 en disant, « Mais moi, hein, mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. N'est-ce pas des valeurs à laquelle nous tenons? N'est-ce pas des valeurs qui sont vraiment fondées en Christ pour chaque individu, chaque chrétien, chaque croyant ce matin? Et je dirais encore plus pour celui qui est disciple de Jésus-Christ. Cela devrait être quelque chose de naturel d'aimer son ennemi. Ça devrait être naturel pour le chrétien de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent même, et de prier pour eux. Est-ce qu'on voit encore ça aujourd'hui? Ah, il y a des réponses qui viennent assez vite, hein? Ouf! Mais la raison pour laquelle le Seigneur nous parle de ses valeurs, il dira au verset 45, parce que c'est une virgule qu'on avait ici, afin, hein, donc pour que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Pour être fils de Dieu ce matin, il faut pratiquer ces choses. Il faut pratiquer ces valeurs et les mettre en pratique dans notre vie, envers autrui. Je pourrais dire envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Car il fait lever le soleil ou son soleil sur les méchants et sur les bons. Il n'y a pas de différence. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, hein, les publicains, c'était des personnes qui connaissaient la loi, qui connaissaient les lois de Dieu, n'agissent-ils pas aussi ainsi de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Oh! Je vais répéter, verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Les païens se saluent entre eux, mais la parole de Dieu nous dit ce matin que nous devons saluer tout le monde. La salutation était une marque de respect dans le temps du Seigneur, de l'Église primitive. C'était une marque, justement, où on manifeste qui nous sommes par un sourire, par une bonne impression, ou je sais pas dire, une bonne relation qu'on veut établir avec l'autre. C'est ça, bien saluer quelqu'un. C'est pas seulement « salut ». C'est s'approcher. Et c'était c'est de cette manière qu'il faisait à ce moment-là. Il s'approchait des autres, se saluer d'un saint baiser. Donc, ils avaient cette proximité-là. Et si on agit ainsi seulement avec les croyants, qu'est-ce qu'on fait d'extraordinaire? On doit aller aussi saluer et se rapprocher des gens du dehors. Le Seigneur ne nous a pas sauvés afin qu'on forme un corps spirituel séparé du monde et loin du monde. Il nous a fait afin qu'on fasse partie du monde et de manifester qui nous sommes en Christ. Et c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu, lorsqu'on agit de la sorte, qu'on reçoit même celui qui nous haït, qu'on lui donne la main, qu'on s'approche même de ceux qui nous maltraitent. Et encore plus que ça. C'est pas juste d'avoir cette proximité-là, mais c'est aussi de prier pour lui, de mettre ton cœur, d'ouvrir ton cœur envers l'autre qui a un besoin. Parce que s'il agit comme ça envers toi, si une personne agit de la sorte envers quelqu'un qui fait le bien, c'est parce qu'il n'est pas bien lui-même. Cette personne n'est pas bien elle-même en elle. Et c'est souvent pour cette raison que les gens sont réfractaires lorsqu'ils voient les bonnes valeurs qui sont mises en pratique autour d'eux. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien à l'intérieur. Ils ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin de recevoir le Christ afin que ces valeurs prennent racine en eux et qu'ils soient libérés. Qu'ils en soient libérés. Et cela va venir seulement par la dernière chose que Jésus nous enseigne au travers de son enseignement, la prière. La prière. C'est la force, la puissance la plus grande que Dieu nous a donnée, que le Seigneur nous a appris. Que même si quelqu'un vient et te fait du tort, de prier pour lui. Même ça devrait être notre premier réflexe, de prier pour l'autre. Et Jésus terminera en disant, verset 48, en disant que cela est une marque de perfection. Il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Parce que Dieu, et Jésus ce matin, ne nous a pas enseigné des choses qui sont infaisables. Mais il nous a appris des choses que nous pouvons accomplir en lui et par lui. Donc, à quelque part, c'est infaisable par nous-mêmes. Et c'est incompréhensible aussi. Avec une pensée humaine, c'est incompréhensible. De dire à quelqu'un qui vient te voir, qui dit, mon frère m'a fait telle chose. Cette personne m'a fait telle chose. Et toi, lui dire, bien, prie pour lui. Ça paraît insensé. Mais c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il ne fonctionne pas avec des principes humains, mais des principes divins. Des principes qui renversent les forces de l'ennemi, de nos ennemis. Qui renversent toute puissance qui vient contre ses enfants. Il nous a bien équipés. Et Jésus, dans le contexte ici, s'adresse à ses disciples et à chacun de nous ce matin, qui sommes sel et lumière de ce monde et qui se démènent à observer et à enseigner, à observer la parole de Dieu, afin d'être comme notre Père céleste. Mais c'est impossible d'être parfait comme Dieu est parfait. Mais nous marchons, et je dirais même comme Paul, nous courons vers la perfection. Donc je cours à accomplir les principes de Dieu afin que le Seigneur se manifeste dans ma vie par son esprit. Et ses enseignements nous font vivre dans des valeurs spirituelles et morales qui dictent aux croyants comment ressembler à Dieu. Ce n'est pas par des paroles qui incitent à la violence, au non-respect des autres et à la nonchalance envers l'œuvre et la personne de Jésus et de son esprit, et encore moins de Dieu et des autres. Mais ces valeurs sont des œuvres et des manières de vivre qui habitent tout croyant qui font la volonté du Père, comme Jésus a fait. À l'époque de l'Église primitive, les lois de Dieu étaient tous connues et respectées, et Jésus avait grandi lui-même dans la connaissance de la loi. Mais plus encore, il était la parole, et il est la parole. Donc, il savait ce que ses disciples avaient appris. Il savait ce que ses disciples avaient appris. Ce qu'on voyait dans Matthieu 5, verset 43, et Jésus disait, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Jésus se servait des choses qu'il connaissait déjà afin de leur donner un sens nouveau, afin qu'ils comprennent la nouvelle alliance qui allait être, à savoir sa résurrection. Verset 44, il dit, mets-moi. Mets-moi. Je vous dis, aimez et bénir. Je vous dis d'aimer, de bénir, de faire du bien aux autres et de prier pour eux. Nos plus grandes valeurs sont fondées sur ces quatre choses que Jésus nous a enseignées. À l'égalité, de l'obéissance et de la conformité à l'accomplissement de toute la loi que Jésus nous a donnée dans Jean 13, versets 34 et 35. Lorsqu'il dit, dans le même sens, encore une fois, « Je vous donne un commandement nouveau. » Est-ce qu'il était nouveau? Plus ou moins, hein? Parce que Jésus ne se répète pas, mais il revient à des choses qui étaient de la loi afin de faire comprendre aux gens les principes de Dieu. Il dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. » Faisant référence à son œuvre salvatrice qui allait venir. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est le plus grand commandement que le Seigneur nous a donné d'aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée et d'aimer ton prochain comme toi-même. Les plus grands commandements qui font partie des valeurs chrétiennes. Et on ne peut pas mettre le deuxième en pratique si on ne met pas le premier en pratique. Il faut commencer par aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Alors, tu vas être capable d'aimer l'autre comme lui t'a aimé. On ne peut pas aimer l'autre comme Jésus m'a aimé si moi-même, je n'aime pas le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La loi a un sens. A un grand sens pour notre vie, pour nos valeurs et pour la communauté évangélique. Je voudrais vous dire ce matin que naturellement, il nous est impossible de lui ressembler parfaitement à Dieu et d'arriver à aimer, à bénir, à faire du bien à nos ennemis et en plus de prier pour eux. Hey, t'en demandes pas mal, là, Seigneur. Hein? En plus, il faut que je prie pour lui qui me fait du tort. Eh oui, parce que c'est comme ça qu'agit celui qui a reçu par grâce et qui donne cette même grâce qu'il a reçue, qu'il la redonne, qu'il la partage, qu'il l'offre aux autres. Nous avons besoin, pour y arriver, de la puissance de son esprit qui vient lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre vie, qui vient en nous, qui nous fortifie, nous purifie, afin de puiser en lui la source d'unité qui témoigne en nous et aux autres la présence de Dieu et sa bénédiction. C'est ce que vient faire l'Esprit dans une vie. C'est ce que vient faire l'Esprit de Dieu dans une vie. C'est pour ça que, par nous-mêmes, ou aux yeux des autres, c'est incompréhensible. Mais que les principes de Dieu qui nous a appris sont des valeurs et des choses qui nous font grandir et qui font grandir une société. Lorsqu'on s'attaque à ça, lorsqu'on s'attaque à ces valeurs, on ne peut pas s'attendre à ce que le monde va aller mieux. Si aujourd'hui nous essayons de sortir tous les enseignements qui nous dictent les valeurs qui sont agréables à Dieu, tout comme la charité, dans les familles, les écoles, les institutions, ce monde n'aurait que des valeurs de dépravation, de méchanceté, de violence, et cela ne pourrait qu'apporter la colère de Dieu. Les valeurs bibliques, frères et sœurs, que nous chérissons, sont des valeurs morales et spirituelles enseignées par le Seigneur, par Dieu lui-même, dans sa parole, et qui nous ont été données par le Seigneur et agissent à travers nous et en nous à cause de Christ, qui vit en nous. Toutes ces valeurs-là, si nous sommes capables de les mettre en pratique, c'est parce que nous avons reçu le Seigneur et que son Esprit vit en nous. C'est par cela que ça fait la différence. C'est par cela que nous faisons la différence, chacun de nous ce matin, qui croyons, qui avons la foi, qui avons reçu comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans Romains, chapitre 7, verset 4, Paul nous dira de même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Hein, n'est-ce pas de la loi qu'on parle ce matin? Les valeurs sont appuyées sur les lois de Dieu. Vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Nous sommes ressuscités en Christ afin de faire des bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour nous. Tout comme ses valeurs. Frères et sœurs, à l'exemple de Christ, nous sommes morts au péché afin de vivre pour nos valeurs et les bonnes œuvres préparées pour nous par Dieu. Car nos valeurs ne se limitent pas à nos capacités, mais à la puissance de la régénération que nous avons reçue de notre nouvelle vie en Christ. Par la puissance de la régénération que nous avons reçue en Christ. Est-ce que vous avez été régénéré? Est-ce que vous avez reçu cette nouvelle vie? Est-ce que vous vivez cette nouvelle vie dans le Seigneur ce matin? Alors, si oui, vous êtes en mesure de mettre en pratique les valeurs qui vont faire la différence et qui font la différence dans votre vie, dans la vie des autres et dans votre communauté. Dans le contexte spirituel, la semaine dernière, j'avais mentionné Éphésiens 5, que j'aimerais revenir ce matin avec les deux premiers versets de Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Où nous avons lu ensemble ce que Paul disait ceci, « Devenez donc, hein, quelque chose à devenir, à chercher, à être, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Mais le deuxième verset nous dira aussi de marcher dans la charité. À l'exemple de notre Sauveur, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Wow! Des paroles puissantes qui retentissent en nous ce matin à cause de ces valeurs que nous devons, frères et sœurs, chérir et mettre en pratique. La plus grande acte ou action qui définit la bonté et l'amour du Seigneur pour nous est son sacrifice. Jean, chapitre 15, verset 13, il dira, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » N'est-ce pas ce que Jésus a fait pour toi afin que tu deviennes son ami, son frère, sa sœur, co-héritier avec Christ, avec lui? Il a donné sa vie pour toi. Notre spiritualité, nous la vivons à travers la manifestation des valeurs qu'opère le Saint-Esprit en nous. Dans Galates chapitre 5, versets 22-25, ça va ensemble. Nos valeurs spirituelles, nos valeurs notre vie spirituelle et nos valeurs sont spirituelles, sont pas humaines. Elles viennent du Seigneur et elles agissent en nous à travers lui, à travers cette nouvelle vie que nous avons en lui. Donc, Galates 5, versets 22 à 25, nous dira que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou l'intégrité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est ce que ça veut dire. La loi n'est pas contre ces choses. Hein, Paul aussi revenait souvent sur la loi pour expliquer aux gens de ce qu'il parlait. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, selon sa volonté, selon sa façon de faire et non la nôtre. Il y a beaucoup de choses que je pensais bien avant de venir au Seigneur, que j'ai appris que ça ne sert à rien. Mais lorsqu'on apprend que le Seigneur vient dans notre vie, que l'Esprit nous révèle les choses de Dieu, on s'aperçoit que, oups, il y a des affaires que je n'ai pas besoin de faire. Il y a des affaires que je n'ai pas besoin dans ma vie pour plaire à Dieu puis marcher avec lui. Notre mission est de faire connaître la souveraineté de Dieu par la pratique des valeurs qu'il nous a enseignées et inculquées. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, on peut lire où Paul disait, « Si tout ce que vous faites, faites-le avec méchanceté, hein, avec rancœur, avec envie de mépris. » Non? Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire aux hommes. Hein, je vais rajouter ce petit mot-là. Et non pour les hommes. Non pour plaire aux autres. Mais à Dieu, au Seigneur. Plaire au Seigneur, faites de bon cœur. Tout comme un petit enfant, hein, que son parent va lui dire de faire quelque chose, ça ne dure pas tout le temps, là. On a l'expérience. Quand ils sont tout petits, ou ce qu'on leur dit, « Tu veux-tu faire ça pour papa? Tu veux-tu aller faire ça pour maman? » Puis ils courent le faire. Ils ne se posent pas de questions. Ils veulent le faire parce qu'ils veulent faire plaisir. Et c'est ça notre relation avec le Seigneur. On fait des choses non pour plaire aux autres, hein? Mais on le fait pour plaire à Dieu, pour plaire à celui qui nous a envoyés. C'est lui qui nous a envoyés dans la mission. Ce n'est pas nous qui poussons pour aller à la mission. Moi, si je suis là ce matin, c'était pas mon premier choix. Mais c'est le Seigneur qui nous pousse à faire sa volonté et dans sa volonté. Et lorsqu'on y est et qu'on obéit, il va nous donner la force d'accomplir sa volonté. Il va nous donner le cœur disposé envers l'autre et envers lui. Et ça, c'est l'œuvre de son esprit en nous. Pierre avait bien compris le sens des paroles du Seigneur. Lorsqu'il dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, d'être tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter la bénédiction. On parle de quelle bénédiction? Ah, parce que ton frigère va être plein, ton compte de banque va être plein, puis tu vas être millionnaire demain? C'est pas de cette bénédiction-là que Pierre nous parle, mais de la bénédiction céleste. D'une bénédiction qui attend les élus de Dieu. Ceux qui auront marché pour lui et obéi à sa voix. Au contraire, bénissez. On voit encore ce contexte-là de bénir avec cœur, avec un sentiment plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. C'est de cette manière-là que le Seigneur veut qu'on bénisse les autres. Le disciple du Seigneur est celui et celle qui est appelé fille et fils de Dieu. Ce sont ceux qui exercent les mêmes valeurs que leur maître, en bénissant ceux qui leur font du tort, en faisant du bien à ceux qui les haïssent et en ne maltraitant pas ceux qui les persécutent. On dit souvent au Québec, on est béni parce qu'on n'a pas autant de choses qui viennent contre ceux qui marchent avec le Seigneur. Ceux qui ont des valeurs chrétiennes, bien nous sommes encore quand même pas pires. Même si on touche certaines valeurs, on a quand même au moins une liberté de rassemblement, je vais le dire comme ça, une liberté d'individu de pouvoir continuer à marcher et à croire dans la parole de Dieu. Mais on sait que certains pays ne l'ont pas, cette liberté-là. Je ne peux pas m'avancer parce que je ne sais pas jusqu'où ce que ça va aller. Mais il est certain qu'après que l'Église soit enlevée, il n'y aura plus de paix sur la terre et il n'y aura plus de personnes qui vont avoir ces valeurs-là que nous avons et que nous professons encore ce matin. Je vais y aller. Dans Apocalypse chapitre 6, vous savez, lorsque l'Église du Seigneur va être enlevée, c'était pas dans mes notes, mais lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, qu'est-ce qui va arriver? Toutes ces valeurs-là que nous parlons ce matin vont être enlevées de sur la surface de la terre. Et c'est pour ça, tantôt, au début, je parlais que si on touche ces valeurs-là, qu'on essaye de tout balayer et enlever les valeurs que la parole de Dieu nous a données et que nous pouvons manifester parce que nous avons le Seigneur en nous. Il y a certaines valeurs que vous allez me dire, oui, mais il y a certaines valeurs de bonté qu'on voit dans le monde, même envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a lu tantôt? C'est que le Seigneur fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Les justes et les injustes. Pour l'instant, toutes ces choses-là, pas les trafiquer, mais on peut les mettre en pratique à un certain niveau. Mais lorsque l'Église va être enlevée, dans Apocalypse chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, verset 1, à partir du verset 1. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens, je regardais. » Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Qu'est-ce qui va arriver après que l'Église soit enlevée? L'un des premiers fléaux, c'est que la paix va être enlevée aussi. Et qu'est-ce que cela va produire? La méchanceté va prendre la place. Va prendre toute la place. Toutes ces valeurs que nous parlons ce matin de paix, d'amour, de charité, vont partir. Je dirais que c'est le temps de s'attacher au Seigneur. Parce qu'on voit les choses qu'on n'a pas vues depuis bien des années. Les choses qui sont accomplies et les prophéties qui sont accomplies présentement sont pas mal rendues à la limite, je dirais. Tout ce qui reste, c'est la construction du temple. Hein, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe, un peu partout à l'Orient et ainsi de suite, on voit que tout se met en place. Que tout est en place pour le retour du Seigneur et l'accomplissement de la prophétie du jugement de cette terre. Donc, je dirais ce matin, préparons-nous au retour du Seigneur. Regardons en haut parce que notre délivrance approche, nous dit la parole de Dieu. Certains disent, ça fait 2000 ans qu'ils disent ça. Certains diraient même que cette semaine devait être l'enlèvement. Hein, pour ceux qui nous suivent, là. Certains même prédisaient le retour du Seigneur cette semaine. Mais j'ai été voir quand même, parce qu'on est curieux, voir de quoi ça ressortait, de où ce que ça venait. Et cela vient de la fête des cornes, des trompettes, de l'appel à la... Voyons, repentance. Donc, c'était à cette fête, la fête des cornes, où ce qui appelait le peuple à la repentance. Et cette semaine, cette fête a été réinaugurée, on s'est dit comme ça, restaurée. Ils l'ont refaite, ils ont recommencé, okay, cette tradition-là juive depuis des milliers d'années, que ça ne s'est pas au moins 2000 ans, parce que le temple n'était plus. Et présentement, ça a recommencé cette semaine, le 24 septembre 2025. C'était l'appel à la repentance. Moi, je ne vois pas ça comme étant le jour même. Parce que lorsque la trompette sonnait pour la repentance, il fallait que les gens viennent et se repentent. Il fallait que les gens, même au loin, qui entendaient, et cette fête a été inaugurée et a été célébrée partout sur la terre. Donc, moi, je ne l'ai pas entendu où ce que je suis. Je ne sais pas si Montréal, Québec, ou ces villes-là, il y a eu ce son qui a sorti. Ça a l'air que c'était en même temps, au même moment, c'était déjà prédit que ça allait se faire partout sur la terre. Donc, pour certains, ça devait peut-être être la nuit, on ne sait pas, mais ça se faisait à grandeur de la terre, cet appel à la repentance. Donc, pour moi, je vois plutôt « Préparez-vous ». Un appel à se préparer au retour du Seigneur. C'est imminent. Lorsqu'on regarde pour la construction du temple, qui doit se refaire, je dis refaire parce que ça fait longtemps qu'il avait été fait par Salomon, qui avait donné, et ainsi de suite. Mais présentement, ils ont tout ce qu'il faut pour reconstruire le temple et ils disent que ça pourrait se reconstruire dans l'espace d'une année. C'est vraiment rapide. La vache rousse, ça prenait une vache pour le premier sacrifice, qui était rousse parfaitement, et ils ont réussi à la reproduire et à avoir cette vache rousse pour avoir les cendres pour le premier sacrifice qui aura lieu dans ce temps. Donc, tout cela, juste pour dire que tout est prêt. Israël est revenu une nation, ce qui n'était plus. Donc, le désert a refleuri en Israël. Les déserts, oui, refleurissent aussi, mais aussi, on voit de l'eau à des endroits où il n'y en a pas eu depuis aussi beaucoup d'années. Il y a beaucoup de choses qu'on voit se passer. Et si on jette les yeux vers l'Orient, vers le peuple choisi de Dieu, Israël, on s'aperçoit que il y a des guerres qui se préparent, ou qu'on va voir la guerre de Gog et Magog qui va se produire contre Israël. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit qu'il vient chercher son Église et qu'on va voir ces choses. Il n'a pas parlé du temps, de l'heure, du moment où ce que Jésus revient. Mais il dit quand même que vous allez voir par tout ce qui se passe, par les temps, le retour du Seigneur se préparer. Donc, préparons-nous. Avant la grande trompette de Dieu, où ce que lorsque ça va sonner, on va se retrouver dans la présence de Dieu. En un instant et en un clin d'œil, nous dit la parole. Donc, Jésus nous disait ce matin dans Matthieu 6, versets 46 à 48, dans notre texte, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et pour terminer ce matin, nos valeurs font partie intégrante de ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Et qu'importe ce qui arrivera aujourd'hui ou demain, j'aime que Jésus nous ramène à l'essentiel. Et ce qui fait que nous sommes vraiment bénis de savoir que nous pouvons prier les uns pour les autres. Que la prière fait partie des choses les plus importantes que le Seigneur nous a données comme valeur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait en nous et pour les autres. C'est ce qui fait manifester la grandeur et la force de Dieu à travers notre vie et la vie des autres, là où le Seigneur nous a placés. Et comme Jésus nous a dit au verset 44, priez, priez et priez pour eux. Parce qu'on ne sait pas le jour et l'heure. Mais la parole de Dieu nous dit de prier. La fin des temps arrive, priez. On est maltraité, priez. Qu'importe ce qui arrive, priez en tout temps, nous dit la parole de Dieu. que tout nous amène toujours à aller rechercher en Dieu la bénédiction. Oui, pour nous, mais surtout pour les autres, pour notre société, qui ont besoin de revenir aux vraies valeurs, de revenir et de venir au Seigneur, afin de goûter et de voir combien est-ce que ces valeurs peuvent être grandes en chacun d'eux, comme le Seigneur le fait en chacun de nous. Que le Seigneur bénisse ses paroles ce matin. Et c'est avec ces paroles que nous allons aller à la table du Seigneur. Je vais terminer avec un mot de prière. Bien, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu faire ta demeure en nous. Et que maintenant, Seigneur, nous sommes ton temple. Notre maison nous attend là-haut. Que présentement, Seigneur, nous sommes dans une tente en attendant cette demeure céleste. Merci, Seigneur, qu'en attendant, bien c'est toi, par ton esprit, qui nous donne de partager ces valeurs autour de nous, de les manifester, mais aussi de les faire connaître. Merci, Seigneur, que tu te sers de nous afin de diriger les autres vers ta parole, vers ses enseignements, ses valeurs qui transforment les vies, qui touchent chacune de nos vies, afin, Seigneur, que ta volonté soit faite en nous et à travers nous. Merci qu'on peut s'approcher du trône de grâce ce matin afin d'être béni par toi, d'être restauré, d'être fortifié par ton esprit à travers notre santé et tout notre être. Seigneur, je te prie de toucher chacun et chacune des personnes, Seigneur, qui sont malades, qui ont entendu ce message ce matin d'amour. Je te prie, Seigneur, de les toucher là où ils sont, dans leur corps, dans leur âme, leur esprit, afin, Seigneur, de te révéler spirituellement à travers eux, qu'ils comprennent la grandeur de ton salut, de cette sanctification que tu as accomplie de jour en jour en nous. Seigneur, touche tous ceux qui nous écoutent ce matin, afin, Seigneur, qu'ils puissent voir combien ce que tu es bon, combien ce que tout ce que tu nous donnes est agréable et parfait, et que nous pouvons ensemble toucher le cœur de Dieu dans sa présence, nous présenter par des prières dans la présence de Dieu ce matin, afin d'être restaurés, d'être touchés par cette paix qui vient du Seigneur, qui vient de Jésus. Cette paix que dépasse toute intelligence. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Que cette présence, Seigneur, puisse toucher tous ceux qui écoutent ce matin, afin qu'ils soient guéris parfaitement. Nous te prions et te remercions par le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis, que cette parole soit bénie dans vos cœurs.